J'avais plusieurs messages en préparation et le Seigneur m'a montré que c'était important ce début d'année, puisque nous, enfin, l'Église marche un peu en année scolaire. Hein. L'année officielle est plutôt faite pour la comptabilité. Hein. mais c'est vrai que nous démarrons un peu les activités après un retour de vacances et puis jusqu'au mois de juin. Et donc en ce début d'année, le Seigneur m'a rappelé que c'était important que nous puissions marcher ensemble d'un même pas. Et le meilleur moyen, c'est de nous rappeler la vision que le Seigneur nous a donnée. Pendant un temps, notre Église, nous avons fonctionné d'une certaine manière, nous avions une vision, mais elle était un peu floue. Et beaucoup de problèmes ont surgi, nous n'avons pas su surmonter ces problèmes. Et depuis que nous avons adoption bien étayée, bien précise, eh bien, nous voyons les fruits que nous avons d'unité, de paix, de stabilité. Et je crois que c'est important que même les nouveaux qui viennent, eh bien, connaissent bien la vision. Et pour ceux qui la connaissent déjà, peut-être j'ai essayé de la montrer sous un éclairage un peu différent, que nous puissions encore mieux la connaître. Alors, je voudrais commencer par un verset que peut-être vous connaissez pas bien, qui est dans Habacuc, chapitre 2, verset 2, où Habacuc, c'est un petit prophète, hein, et Dieu lui dit l'importance d'écrire la vision. Hein. Écris une vision, grave-la sur des tablettes de pierre, afin qu'on la lise couramment. Voyez-vous, le prophète reçoit une direction de Dieu, reçoit une injonction de Dieu, pour que non seulement la vision qu'il reçoit, qu'il transmet au peuple, il puisse l'écrire. Hein, c'est pourquoi nous avons écrit la vision. Et à l'époque, bien sûr, on utilisait des tablettes de pierre, maintenant on utilise des tabloïds. Hein. Mais c'est le même principe, c'est que ce soit visible, que ce puisse être rappelé, et que ça soit commun à chacun d'entre nous, pour que ça crée cette unité de l'Église, afin qu'on la lise couramment. Voilà, donc je pense que si je le rappelle une fois par an, c'est pas trop demandé. Et c'est important que nous puissions nous en souvenir. Le deuxième passage, qui se trouve dans Osée, encore un petit prophète, Osée 4, verset 6, le fameux passage où il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et traduction habituelle, c'est la vision. Il lui manque la vision. Parce que, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Traduction très simple qu'on peut faire de ce verset, c'est sans vision, le peuple périt. Donc, voyez-vous que la vision est très importante parce que on peut être détruit, le peuple peut être détruit. Quand on parle de peuple, c'est effectivement cette communauté. On peut avoir une vision personnelle de Dieu, mais en tant que peuple, vous savez que déjà quand on met deux personnes ensemble dans un couple, c'est pas facile. Il faut s'entendre, il faut chercher à trouver des points d'accord, etc. Dès que vous en mettez un troisième, un quatrième, et toute une communauté, tout un peuple, vous voyez. Donc la vision est importante en tant que peuple pour que ça crée une unité, une manière de voir les choses de manière identique, pour marcher ensemble. Le troisième verset, c'est dans Osée chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Et les questions là de connaissance de l'Éternel. Quand on connaît l'Éternel, quand on connaît qui il est, quand on sait qui il est, quand on peut vraiment s'appuyer sur la réalité de qui est Dieu, eh bien, nous sommes préservés de l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution est là en permanence, hein. C'est Satan qui l'envoie, hein, pour détourner le peuple de Dieu vers les idoles, vers de l'adoration de choses et non pas l'adoration de Dieu. Et vous savez que les idoles sont très nombreuses et très variées. Et surtout à l'époque d'aujourd'hui, elles ne sont plus en pierre ou en bois, mais elles sont de manière virtuelle sur les écrans, dans les systèmes de valeurs de notre monde. Et donc cet esprit de prostitution est à l'œuvre. Et il faut en être préservé, parce que l'esprit de prostitution conduit à l'apostasie. Et vous savez que l'apôtre Paul parle de ce qu'à la fin des temps, l'apostasie va grandir. Donc nous sommes en danger et nous avons besoin de connaître l'Éternel. Amen. Et ce matin, nous avons lu aussi ce verset dans Osée. Eh bien, cherchons à connaître l'Éternel. Et la vision est un élément pour connaître Dieu. Bien sûr, ça ne remplace pas notre relation personnelle avec Dieu, mais la vision établie sur l'Écriture, sur la parole, nous permet d'avoir des fondements solides. Et enfin, le verset que je voudrais aussi vous partager dans le cadre de cette étude, c'est Jean, chapitre 15, verset 8, où il y a cet élément fondamental que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Il y a deux éléments importants dans ce verset. Être ses disciples. Est-ce que nous voulons être disciples de Jésus ? Oui, bien sûr. Et la deuxième chose, est-ce que nous voulons glorifier le Père ? Est-ce que nous voulons glorifier Dieu, le Père, qui a envoyé Jésus, son Fils ? Oui, bien sûr. Et quelles sont ces conditions pour être disciple et pour glorifier Dieu ? C'est de porter du fruit. Amen. Donc nous avons tous envie de porter du fruit. Mais c'est un peu moins facile de le réaliser. Et la vision aussi est un cadre, c'est un élément qui nous permet de porter du fruit. Amen. Comme je le disais en préambule, notre église, qui a été appelée ici sur Aubergenville en 1989-90, eh bien, a porté de mauvais fruits pendant une dizaine d'années, auprès des autorités, auprès de la région, parce qu'il y a eu des différends, des divisions, des problèmes, etc. Et depuis que cette vision, nous l'avons adoptée, il y a 10 ans, eh bien, les fruits sont différents, le témoignage est bon, le témoignage grandit, et nous pouvons nous réjouir. Et donc, nous pouvons glorifier Dieu et être ses disciples. Et c'est pourquoi nous voulons maintenir le cap dans le cadre de cette vision. Alors, un petit rappel sur la vision. C'est quoi la vision ? Alors, la définition du dictionnaire biblique nous dit que la vision, c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle à l'esprit ou aux yeux naturels, et parfois les deux combinés. Je répète, c'est ce que Dieu montre de manière surnaturelle. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelque chose de naturel avec vos yeux. C'était le cas de Moïse avec le buisson. Il voyait un buisson ardent, mais c'était un buisson. Mais il faut la vision surnaturelle pour comprendre la vision. Vous pouvez voir une vision, mais pour l'interpréter, pour la comprendre, il faut les yeux spirituels qui se greffent sur les yeux naturels. Donc il y a toujours un aspect surnaturel, c'est-à-dire... C'est pourquoi la science, et c'est pourquoi en particulier la France, c'est si difficile à évangéliser, parce que les Français ont adopté une vision très restrictive de la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire la science. Or, la science ne peut démontrer, ne peut montrer qu'une partie de la réalité que Dieu a créée. Vous savez très bien que l'ouïe, l'odorat, les yeux sont limités et que les chiens peuvent même entendre des sons que nous n'entendons pas. Donc cette limitation, si la science se limite à des choses visibles, nous ne pouvons pas comprendre l'ensemble de la création de l'univers. Or, c'est ce que font les Français. Ils disent « moi je ne crois que ce que je vois, que la science peut démontrer ». Or, nous savons que les esprits existent, nous savons, enfin même le français le sait, mais il y a une sorte de déni de cette réalité, ce qui fait que ça devient aberrant. Que même les physiciens aujourd'hui savent que l'esprit commence à être mélangé avec la matière, etc. Et ça, on ne peut pas le démontrer, qu'il y a des phénomènes qu'on ne peut plus reproduire. Or, la science ne peut s'appuyer que sur des phénomènes reproductibles. Et toute la mécanique quantique, les atomes, quand on rentre dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, il y a des choses qui ne peuvent plus se démontrer. Toute la mécanique céleste qui s'appuie sur une droite, vous pensez que la droite est droite, et en fait, dans l'espace, elle est courbe, et se mélange avec le temps, etc. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut plus saisir par la science. Et celui qui veut s'appuyer sur la science pour démontrer Dieu, eh bien, il est mal parti, puisque Dieu est au-dessus de tout ce qui est visible, de tout ce qui est démontrable. Il est au-dessus de tout cela, et c'est pourquoi nous pouvons le saisir que par la foi. La Bible met en garde contre les visions vaines. Les visions vaines, hein, ça conduit à la vanité. Ça conduit à l'erreur, ça conduit à l'absurdité. Et il y a beaucoup de faux prophètes, hein, qui conduisent qui donnent des visions vaines. Les visions vaines sont souvent appuyées sur nos envies, sur nos désirs. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, quand le roi faisait venir des faux prophètes, les faux prophètes, ils étaient assez nombreux autour du roi, parce que le roi aimait bien qu'ils prophétisent des choses qui lui plaisent. Donc ils leur demandaient leur avis, mais en fait, ils allaient donner l'avis que le roi voulait entendre. Et vous? Et ça, c'est des visions vaines. C'est complètement absurde de demander un conseil, alors que ceux qui vont vous conseiller, ils vont simplement l'avis que vous avez envie d'entendre. Donc ça tourne en rond, quoi. Et donc vous vous donnez raison, et vous allez marcher dans une direction qui va vous conduire à la chute, puisqu'il n'y a rien de réel derrière tout ça, il n'y a que vos envies qui sont réalisées. Et même pire, c'est que quand Dieu voit ça dans ses visions vaines, qu'est-ce qu'il fait? Dans un exemple dans l'Ancien Testament, eh bien, il donne même un ordre à un démon, puisque les démons sont soumis aussi à Dieu, hein. Les démons sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu, et Dieu envoie un démon de mensonge exprès pour encore affirmer encore plus le mensonge, pour enfoncer encore plus le roi dans son mensonge. Donc les visions vaines, c'est très dangereux. Il faut vraiment chercher les visions de Dieu et laisser Dieu parler, et laisser la volonté de Dieu se faire, plutôt que d'essayer de réaliser nos propres volontés. La vision ne s'adresse parfois qu'à l'intelligence. Hein. Par exemple, les révélations des semaines de Daniel. Daniel reçoit des révélations, des visions, dans le livre de Daniel, un certain nombre de semaines, etc. Bon, là, ce n'était pas une réalité visible, mais il comprenait quel était le temps qui était donné aux choses pour que la vision se réalise. En tout cas, les visions que Dieu donne dans sa parole et dans notre quotidien, quand elles viennent de Dieu, elles portent l'empreinte de l'esprit de sagesse, de l'esprit de pureté, de l'esprit de vérité, de l'esprit de justice. Si ces choses sont absentes, eh bien, les visions, vous pouvez vous en méfier. Le contenu de la vision est didactique, c'est-à-dire il cherche à enseigner. Le contenu d'une vision est là pour chercher à encourager, pour chercher à fortifier. Souvent, en rapport avec des événements, alors qu'ils peuvent être proches ou futurs, ou plus lointains. Voilà un peu les définitions que nous pouvons donner de la vision biblique. Si nous venons à la définition, enfin, à la vision de notre Église, je dirais que la vision de notre Église, elle est surnaturelle, parce qu'elle n'est pas basée sur une vision de ce que nous voyons ou de ce que le monde véhicule en termes de vision. Hein. Actuellement, chaque entreprise a une vision. Hein. Il se donne une vision, vous le voyez même sur Internet, mais elles sont issues d'une réflexion humaine, d'objectifs humains, de buts qu'on veut atteindre par soi-même, par des efforts, par l'effort des employés, des actionnaires, etc. Or, la vision de notre Église, et c'est ce travail que nous avons fait pour qu'elle soit appuyée sur la parole, elle est surnaturelle parce qu'elle est inspirée de la parole de Dieu qui a été donnée par le Seigneur. Le contenu théologique et eschatologique, l'eschatologie, c'est l'accomplissement dans le temps, dans l'avenir des choses, elle se base sur la Bible. Et est en rapport avec le futur proche. Parfois, nous avons certains objectifs, comme la maison de prière, on en a parlé hier, qui est un objectif que nous voulons réaliser dans l'Église. Mais ce peut être un objectif plus lointain. Nous ne savons pas à quelle époque, dans quel temps, nous pouvons vraiment influencer la ville ici. Ça peut être rapide, ça peut être plus lent. Ça dépend aussi des ressources que Dieu envoie. Cette vision que nous avons adoptée, elle est didactique. C'est-à-dire, elle nous enseigne comment nous comporter et nous donne des conditions. Nous avons un certain nombre de conditions dont il faut tenir compte. Hein. Ces conditions nous sont communes. Et aussi des moyens de réalisation. On va y venir. Cette vision, si elle est suivie, conduit obligatoirement au but annoncé. Obligatoirement, parce qu'elle est appuyée sur les promesses de Dieu. Ainsi, la vision est une ancre solide. C'est une référence pour l'Église, pour la réalisation de ses aspirations, donc des aspirations issues de l'Écriture. Et elle permet d'accomplir la loi de Dieu, qui est à la base de tous les appels que Dieu donne à son peuple. C'est d'accomplir la loi de Dieu. Vous savez que la science, effectivement, découvre les lois de l'univers, et les atomes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils obéissent à la loi de Dieu. Il n'y a que nous, humains, qui pouvons désobéir. Il n'y a que nous. Mais la nature, elle obéit aux lois. Aux lois scientifiques. Il n'y a que les humains qui ont reçu la liberté. C'est la seule exception de la création de Dieu. Et que faisons-nous de cette liberté? C'est tout là le problème. Ceux qui veulent servir Dieu, ils sont appelés à obéir aux lois de Dieu. Voyez-vous? Et que ce soit la loi de Moïse qui a été donnée à la sortie d'Égypte, au moment de la création du peuple, parce qu'avant cette réception de la loi, il n'y avait pas de peuple. Il y avait une tribu, c'était la tribu de Jacob, avec ses 12 fils, qui bien sûr ont grandi en Égypte, mais ils n'étaient pas constitués en peuple. Au moment de la constitution du peuple, il y a eu la loi. Et Dieu a dit, je vous demande d'observer la loi pour que vous soyez mon peuple. La marque, c'est que vous observiez ma loi. Et observer la loi de Dieu, ça veut dire qu'on renonce, quand il y a conflit, à notre propre loi, à notre propre volonté, pour adopter la loi de Dieu. Vous me suivez? Et pour l'Église, c'est pareil. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, en fait, quel était le rôle du Saint-Esprit essentiellement? Je vous écoute. Pardon? Oui, c'est une vérité, oui. Mais le rôle fondamental qui est en lien avec la loi de Moïse, c'est tout simplement un remake de la loi de Moïse. C'est quoi? Le Saint-Esprit, Dieu l'a donné essentiellement pour quoi? Pour obéir à la loi. Rappelez-vous, les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, je mettrai ma loi, où ça? Où ça? Dans leur cœur. C'est ça la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, je mettrai ma loi sur des tablettes de pierre pour qu'ils puissent les suivre. Et Dieu a vu que son peuple ne pouvait pas le suivre. Il désobéissait tout le temps. Donc il a dit, je vais faire une nouvelle alliance avec mon peuple et je vais mettre ma loi dans leur cœur. Est-ce que vous avez la loi dans vos cœurs? C'est ça la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est la position de la loi. D'un côté, il était sur des tables extérieures, on pouvait les lire, les prophètes les lisaient, quand Esdras et Néhémie ont retrouvé la loi, ils l'ont lu, ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont repentis, effectivement, la conséquence est la repentance, mais la loi était à l'extérieur. Et Dieu a vu que c'était pas possible, il fallait que la loi soit à l'intérieur de nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes amenés, conduits, nous sommes invités à lire la parole de Dieu pour que cette loi pénètre dans notre cœur. Bien sûr, c'est l'action du Saint-Esprit qui la place dans nos cœurs pour que dans toute situation que nous sommes, au travail, à l'école, à la maison, partout, que cette loi puisse nous conduire à l'obéissance. Amen. Parce que ce qui importe, le peuple de Dieu est amené à suivre la loi de Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est vrai que je vois un petit peu là, tout étonné de ce que je dis. Non? Bon. Alors, vous n'êtes pas étonné. Bon, alors c'est bien. Alors, dites, faites comme les Américains. Yes! Alors comme ça, je suis... voilà. C'est pour dire que cette loi qui est dans nos cœurs, eh bien, doit nous conduire à être des chrétiens qui sont des disciples. Et très souvent, on voit des chrétiens qui ne sont pas disciples. Pourquoi? Eh bien, parce que la loi, elle est dans leur cœur, mais il y a d'autres lois. Et donc, il y a des conflits entre les lois naturelles, les lois spirituelles, etc. Et c'est pour ça aussi que nous faisons des progrès. Hein, en marchant avec le Seigneur, à chercher sa volonté, à chercher à ce que le Saint-Esprit ait davantage de pouvoir pour nous conduire à obéir à sa loi. Mais il y a toujours notre volonté, hein, de toute façon. Le Saint-Esprit peut mettre la loi dans notre cœur, si nous n'avons pas décidé de le faire, nous ne le faisons pas. Donc personne, y compris Dieu, ne peut forcer aucune personne à obéir à sa loi. C'est là la grâce, hein, que Dieu fait à chaque être humain d'être libre jusqu'au bout. Alors pour revenir à la vision, donc cette vision doit nous aider à obéir à la loi de Dieu, à pratiquer la loi de Dieu, à faire la loi de Dieu, à, au travers de la vision, à élaborer des projets qui sont conformes à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et tout doit nous conduire à simplement obéir à cette loi qui est parfaite, parce que Dieu a créé des lois parfaites. Et c'est grâce à ces lois que la nature suit, qui est obligée de suivre, que bien, il n'y a pas, ben, nous évitons une collision en permanence avec d'autres planètes, etc., et que nous pouvons vivre, que l'oxygène que nous avons, eh bien, nous pouvons toujours le respirer, etc., etc. Oui. Et c'est pour ça que des écologistes se lèvent, voyant que les hommes font un peu n'importe quoi, surtout pour du business, pour du rendement, pour de l'argent, pour la satisfaction personnelle. Notre vision, la vision de l'Église, est une encre solide et surtout qui nous permet d'accomplir la loi de Dieu sous l'impulsion de l'Esprit. Amen. Alors, en quoi consiste cette vision? Donc, je vais vous la rappeler sous cette forme-là. La vision décrit d'abord trois directions. La direction est importante parce que c'est la notion du temps. Alors effectivement, il est lent, mais il est très lent. Bon. Trois directions temporelles. Il faut attendre la formation. Qui sont le passé, le présent et le futur. Nous vivons dans le temps, le passé, le présent, le futur. Et la vision prend en compte cette notion du temps. Et tout à l'heure, je disais que toutes les visions, eh bien, on le souci d'éclairer le futur proche ou lointain. Mais parce que Dieu nous montre le chemin. Il n'est pas quelqu'un qui veut nous occulter ce qui va se passer. Il nous montre le chemin. Nous savons que Jésus va revenir. Amen. Nous ne sommes pas... Jésus n'a pas dit, vous verrez ce qui va se passer. Non, il a dit, je reviendrai. Vous serez avec moi aux noces de l'agneau, etc. Nous connaissons l'avenir. Nous ne sommes pas le temps, enfin la date exacte de son retour, mais nous connaissons l'avenir. Et donc la vision définit, enfin prend en compte cette notion du temps, passé, présent, futur. Tout d'abord le passé. Le passé, la vision définit le passé en termes d'appel. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans le monde, qui, au niveau des visions, change radicalement. L'appel. Quel est notre appel? L'appel, c'est pas un sentiment que nous avons, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être pompier, ou demander aux petits-enfants qu'est-ce qu'ils veulent devenir, tout ça. Bon, on peut avoir une envie quelconque. Non, l'appel, c'est Dieu qui, un jour, nous a appelés. Il nous a appelés de différentes manières. Il nous a appelés en tant que peuple, il nous a appelés en tant qu'individu, il nous a appelés en tant que race, il nous a appelés au sens où il veut que nous ayons l'identité de Christ. Et donc toute la notion d'identité est liée à cet appel. Nous sommes appelés à être comme Christ. Nous sommes appelés à être une épouse, une épouse qui attend Christ, donc la notion du corps, etc. Donc l'appel est quelque chose qui est spécifique, qui est surnaturel, parce que c'est vient de Dieu. C'est pas moi je me sens appelé à ceci. Non, c'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui me donne une vocation, qui me donne un sens, mais avant même que je sois né. Avant même que je sois né, Dieu m'a appelé, hein, dira David dans un psaume. Et donc la notion d'appel est importante. Et il y a aussi une notion d'appel pour une église. Cette église ici, sur Bergerville, était appelée par Dieu, comme ça existait il y a 300 ans, qu'il y avait les Huguenots, puisqu'il y avait les Huguenots, on a des marques du passage de chrétiens qui ont souffert pour leur foi et qui nous ont précédés et qui nous laissent un héritage pour continuer. C'est nous, la poursuite des Huguenots, si vous voulez, de ceux qui veulent vraiment afficher leur foi, leur témoignage dans cette ville et dans cette région. Donc il y a un appel. Et l'appel est très important dans la vision, que ce soit individuel ou communautaire. Il y a le futur, hein, le passé et le futur. Et le futur, c'est le but que nous a destiné, qui nous est destiné. L'appel, c'est ce que Dieu a fait parce qu'il a vu que, à travers la chute, eh bien, nous ne pouvons rien accomplir de bon. Et donc, il nous a appelés à la nouvelle naissance. Et avant même que nous soyons nés, il voulait que nous puissions naître de nouveau, etc. Donc, cet appel, nous l'accomplissons en rentrant dans les plans de Dieu. Mais il y a aussi un futur qui nous est destiné. Et ce futur, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être glorieux. Hein, glorieux comme Christ. Nous avons un exemple tel que nous allons être. C'est Christ ressuscité qui s'est manifesté à tous les frères, à tous les apôtres et 500 frères à la fois. Il était glorieux. Son corps n'avait pas le même aspect que nous. Le corps de Jésus, glorifié, n'est plus atteint ni par la maladie, ni la souffrance, ni la fatigue, ni les conditions physiques. Ce corps peut traverser les matières, etc. C'est un corps glorieux. Et c'est ça, ce à quoi nous sommes destinés. Dieu veut nous donner ce corps glorieux. Dieu veut nous donner cet aspect de Christ. Et Christ, pour nous, c'est pour ça que nous aimons Christ. Parce que tout en aimant Christ, nous aimons aussi la destinée à laquelle nous sommes appelés. Le futur, le but auquel nous sommes appelés. Amen. Donc le but est important parce qu'il nous tire en avant, il nous montre assurément que ces choses vont arriver. Amen. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens, ils pouvaient mourir pour leur foi, parce qu'ils savaient que de toute façon, cette assurance, personne ne pouvait la détruire. Les autorités en place, eh bien, pouvaient prendre leur vie. Au contraire, ils allaient même plus vite vers la destinée glorieuse à laquelle ils étaient destinés. Ils ne cherchaient pas pour autant la mort, mais ils n'avaient pas peur. Parce que le but est important, et dans la vision, le but, c'est ce qui nous permet d'espérer de manière sûre ce que Dieu nous promet. La destinée de l'homme, c'est de glorifier Dieu pour toujours, pour son propre bonheur. Notre bonheur, c'est de glorifier Dieu, non pas de nous glorifier nous-mêmes. Ça, c'est le début de la chute, le début de la vanité. Mais glorifier Dieu. Et ça, c'est le but que Dieu nous a destiné et qui est destiné aussi à l'Église. L'Église glorieuse, la nouvelle Jérusalem. Voyez, donc c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est le but de l'Église, de la vision. Et le troisième élément de la vision, c'est le présent. Alors, c'est quoi le présent? Dans le présent, eh bien, c'est notre mission. Si nous nous attachons à la mission que Dieu nous a donné, nous verrons le détail de la mission, cette mission nous servira déjà aujourd'hui à glorifier Dieu de manière assez pâle, c'est vrai, pas de manière glorieuse comme Christ ou comme nous le ferons quand nous serons dans la gloire de Dieu, mais nous pourrons déjà dès maintenant, au travers de la mission, si nous attachons au terme de la mission, sans nous en écarter, eh bien nous pouvons glorifier Dieu, porter du fruit et glorifier Dieu. Au travers de toutes ces voies. C'est une épreuve de patience. Voilà. Un détail sur les trois directions, sur la vocation. La vocation et l'appel, c'est être conscient d'avoir été appelé. Appelé par Dieu à faire partie de son plan. vrai sur le plan personnel. Vous avez tous un appel individuel, appel sur vos vies en tant que chrétiens, mais aussi appel dans un ministère. Pour un jour devenir pasteur, un jour devenir un artiste pour lui, enfin toutes sortes d'appels. Hein. Et ça, c'est la conscience que nous avons, nous. Et ça, il n'y a que nous, personnellement, pour avoir cette conscience-là. Amen. Donc, en tant qu'individu, à être sauvé, ça c'est le premier appel, hein, être sauvé par la grâce de la perdition, en tant que communauté, à participer à la rédemption de l'humanité. C'est-à-dire, en tant qu'Église, ici à Aubergenville, nous sommes appelés à amener des familles, des personnes et des familles, il n'y a pas que les familles, mais aussi des personnes, à connaître qui est Dieu et à l'aimer avec passion. Puisque l'amour nous conduit vers le but qui est la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la vocation de l'Église. Le but, c'est de glorifier Dieu pour toujours en tant qu'individu et en tant que communauté. C'est le but final, c'est de glorifier Dieu. Par contre, nous avons décliné ce but au niveau de l'Église pour le concrétiser un petit peu plus dans certains domaines. Donc nous avons identifié 4 domaines. Le domaine des familles. Et dans le domaine des familles, notre but, c'est de vouloir, nous voulons voir la dignité, l'excellence, la joie, venir dans les familles, dans la vie des personnes qui nous entourent. Ça, vous voyez, c'est un but que l'Église s'est fixé dans le cadre de sa marche avec le Seigneur. Concernant l'Église, nous voulons que Dieu lève et établisse une Église accueillante et dynamique. Alors nous avons déjà Charles là qui est dans ses premières journées de retraite, hein, depuis le 1er septembre, qui est en charge du ministère d'accueil. Et donc il va développer encore plus cet accueil, bien que l'Église est déjà accueillante, mais vraiment que nous puissions développer cette Église accueillante et dynamique. Une école de formation, c'est aussi un but que nous nous sommes fixés. Nous voulons devenir une école de formation pratique de disciples de Jésus-Christ et implanter des églises conformément au modèle de la Bible. Il y a des écoles théologiques, et on ne pourra jamais remplacer ce que vont faire les écoles de théologie, mais il y a des choses que les écoles de théologie ne peuvent pas faire et que nous sommes appelés à faire. C'est une école pratique. Moi, j'ai beaucoup appris dans l'Église en voyant comment les choses fonctionnent. Au travers des épreuves, des difficultés, j'ai compris les principes spirituels que j'aurais pas compris en école de théologie ou peut-être qu'on aurait pu m'enseigner. Mais là, je les ai vus. Je les ai touchés. J'ai vu les interactions spirituelles. Et vous, je sais que vous avez beaucoup appris, pour ceux qui sont déjà dans l'Église depuis un certain temps, sur le terrain, quand vous observez comment se comporter, comment agir pour obtenir la victoire et glorifier Dieu. Enfin, la ville, nous voulons que l'Église influence la ville et la région par l'Évangile et qu'elle devienne un refuge pour les bénédictions de Dieu. Et enfin, la société, nous voulons influencer la société, l'état d'esprit de la société, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'Église, pour que ce soit l'établissement du royaume de Dieu qui soit le but. Enfin, donc j'ai repris en détail les 3 directions, passé, futur et présent. Et le présent, donc c'est notre mission. Et cette mission, elle consiste, elle concerne 3 domaines. Elle concerne l'Église en tant qu'épouse, l'épouse de Jésus-Christ. Elle concerne l'Église en tant que maison de prière. Jésus a dit, ce sera une maison de prière pour toutes les nations. Et la mission concerne l'ambassade, parce que nous sommes tous des ambassadeurs. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Nous représentons un royaume qui est surnaturel, le royaume de Dieu, sur la terre. Et nous sommes amenés à être des ambassadeurs. Et donc cette mission se décline de la manière suivante. D'abord, faire des disciples. Si dans notre préoccupation quotidienne, nous cherchons à faire des disciples, déjà avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, faire des disciples, c'est quoi? C'est pas bassiner les enfants longueur de journée avec la Bible. C'est déjà être des exemples pour eux. Être des disciples, le disciple, c'est celui qui donne l'exemple, qui va en avant, qui montre la marche, qui, quand il est devant une épreuve, comment est-ce qu'il se conduit? S'il commence à s'énerver, s'il commence à partir dans tous les sens, les enfants, ils vont le voir. Et ils vont copier. Et ils verront très bien. Et un jour, on sera étonné que les enfants, eh bien, ce n'est pas des disciples de Christ, ils n'ont pas le caractère de Christ, parce que nous, on n'a pas cherché le caractère de Christ. Le caractère, c'est quelque chose qui se transmet. Ce n'est pas dans une école où on dit, tiens, maintenant, tu auras le caractère de Christ. C'est des parents qui transmettent le caractère de Christ. Et tous les hommes de Dieu qui ont influencé leur entourage, c'est parce qu'ils avaient le caractère de Christ, l'empreinte de Christ. C'est qu'on sent quelqu'un qui est un homme, une femme de Dieu, par le caractère qu'il manifeste, le caractère de Christ. Donc faire des disciples, c'est une préoccupation première. Adorer Dieu, c'est pour ça qu'on a été créé. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et quand nous arrêtons d'adorer Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Tout naturellement. Sans chercher à le faire, naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'adore plus Dieu? On adore les idoles. Nous-mêmes, c'est une idole aussi. Donc, tout naturellement. C'est pour ça qu'on devient idolâtre. Tout naturellement. Comme la gravité, quand vous laissez tomber quelque chose, automatiquement, tombe par terre. Si nous arrêtons d'adorer Dieu, nous adorons une idole, une autre, 36 000 idoles, et nous devenons idolâtres. C'est tout l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre ça. Et le Nouveau Testament, c'est pareil. Et c'est pour ça que l'adoration est importante dans le culte, bien sûr, et je remercie le ministère de Samuel et Cathy pour cela, mais on va le développer cette année. On va voir davantage de moments de louange, d'adoration. Et Charles, qui nous a partagé hier en réunion d'hommes ce qu'il a vécu à Kansas City, ils ont une adoration, une louange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, non-stop, même pas une minute, parce que les groupes de louange, ils se passent toutes les deux heures, et même le jeu de guitare, dès qu'il y en a un qui s'arrête, le suivant est déjà repris. Il n'y a aucun arrêt. Bon, c'est une mission particulière qu'ils ont reçue à Kansas, hein, pour préparer le retour du Seigneur dans la louange. Mais si nous créons ces hôtels de louange, hein, d'ailleurs que Fabienne Pont a reçu sur la France, eh bien le climat spirituel va changer. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais quand, par exemple, il y a une dispute au niveau du couple ou dans la famille avec les enfants, bien sûr, très souvent, il y a une origine charnelle, il y a une origine événementielle, il y a une origine de toutes sortes. Mais je peux vous dire et vous assurer au nom de Jésus que systématiquement, il y a un esprit de dispute qui va venir envenimer la chose. C'est-à-dire que l'aspect spirituel vient tout de suite dessus. Et si vous n'en êtes pas conscient, les choses s'amplifient. Et ça peut même s'amplifier jusqu'au divorce pour certains cas de couple. Donc, soyez conscients que c'est le spirituel d'abord qui commande. Et c'est la Bible qui l'enseigne. Donc, prenez autorité. Et surtout, je parle aux chefs de famille, hein, qui ont cette responsabilité. Prenez autorité au nom de Jésus. Refusez l'esprit. C'est une ambiance. L'esprit, c'est une ambiance, hein. Vous ne pouvez pas le saisir, mais il y a une ambiance. Vous dites au nom de Jésus, je refuse cet esprit de dispute, cet esprit qui envenime les choses. Et je n'en veux plus au nom de Jésus. Bien sûr, vous avez tout le reste à régler, hein. Attention, hein, c'est pas magique, hein. C'est pas magique. Il y a des choses à régler, des choses à mettre en question, etc. Mais il y a toujours un esprit qui est là, parce que l'esprit cherche à surfer sur les difficultés que nous avons pour les amplifier. Et dans l'Église, c'est pareil. Donc, adorer Dieu, pour revenir à notre mission, c'est ça qui va nous préserver de toute idolâtrie. Donc, cherchons à adorer Dieu et lui seul. Et Dieu n'est pas une entité, Dieu est une personne. Intercéder. intercéder. Si nous sommes dans l'intercession, eh bien, nous sommes préservés de tout un tas de choses qui vont nous divaguer dans toutes sortes de choses futiles. Mais des hommes et des femmes d'intercession, donc pour ceux qui ont commencé à terminer d'élever leurs enfants, eh bien, orientez-vous plus vers l'intercession, la prière. Et pour cela, nous avons maintenant des directions précises. Charles a été conduit cet été dans cette vision de la maison de prière. Florence a vu l'exemple de Kingdom Faith, voilà, qui ont aussi la maison de prière. Et tous ceux et celles et les églises qui ont compris l'importance de la maison de prière, eh bien, ils sont protégés, préservés de tout patinage artistique, hein, dans tous les sens, parce que la prière, l'intercession nous ramène au fondement de notre mission, qui est de demander à Dieu, d'être dépendant de Dieu pour toutes choses. Donc la maison de prière est une priorité qui maintenant va s'installer dans notre église. Après avoir passé 10 ans à créer l'église épouse, nous voulons créer l'église maison de prière et l'église ambassade. Rassemblés dans l'unité, Dieu nous a demandé d'être des rassembleurs et non pas des disperseurs. Amen. A dit celui qui rassemble avec moi, hein, est mon disciple. Et si on ne rassemble pas, on disperse. Donc nous devons rassembler dans notre couple, hein, être unis, rassembler dans notre famille, rassembler dans notre église, rassembler dans notre région. Et c'est ce que nous allons encore faire. En principe, en 2011, nous aurons un rassemblement, le premier rassemblement qui ait jamais existé dans la région du Montois, de toutes les églises pour un dimanche complet sur l'île au monde. Mais il faut prier parce que c'est pas facile à obtenir. Pour l'instant, on est en but avec la mairie pour obtenir la salle, parce qu'il nous faut une salle de 2000 places pour rassembler tous les chrétiens. Mais nous devons être des rassembleurs. Évangéliser, bien sûr, c'est le partage de l'évangile. Hein, et nous devons le faire partout, que ce soit dans notre vie privée, au travail, partout. Et servir. Hein, nous sommes appelés à être des serviteurs. Jésus, comme nous le lisons tous les dimanches, n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, et il s'est soumis, il est devenu serviteur. Quel exemple! Nous, nous sommes appelés à être des serviteurs, et pas simplement les pasteurs serviteurs, mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des serviteurs. Servir, servir les frères, servir Dieu, servir, c'est notre mission. Et le but, c'est de porter du fruit qui glorifie Dieu. Dans la vision, donc, il y a cette notion du temps, passé, présent, futur, qui sont les directions principales de la vision. Ensuite, après, il y a les conditions que nous partageons tous ensemble. Alors, il y a des conditions qui sont des questions fondamentales, des questions existentielles, si vous voulez, qui sont au nombre de 3. Et elles, si elles sont abordées de manière unitaire, eh bien, nous pouvons réellement faire notre mission. Tout d'abord, le relationnel. C'est important, le relationnel. Nous sommes faits pour relationner les uns avec les autres. Hein. Dieu, donc, quand il a créé Adam, ben, il a bien vu quelque chose qui ne marchait pas. Il avait les animaux, il avait la nature et tout ça, mais il n'avait pas de vis-à-vis. Donc Dieu a dû créer la femme pour avoir un vis-à-vis, et ensuite après toute la population qui en a suivi, toute la race humaine. Parce que nous sommes des êtres relationnels, nous avons besoin de relations. Regardez les enfants, ils ont fait les Américains sont très forts pour faire des expériences, même parfois un peu bizarre, mais ils ont laissé des enfants ou des bébés où personne ni la nourrice ni personne ne les touchait. Eh bien, il y en a qui sont morts, simplement par le toucher, parce qu'il n'y a pas de relation. Ils avaient à manger, ils avaient toute la nourriture, ils avaient tout ce qu'il fallait sur le plan nutritionnel, mais pas de relation, pas de contact, pas de toucher. Eh bien, ces enfants meurent. Donc, vous voyez, le relationnel, il est vital, vital. Alors que les mêmes enfants, ils ont pris un échantillonnage à peu près équilibré, les mêmes enfants qui avaient toute la même nourriture, mais on les touchait, on les prenait dans les bras, on les posait, machin, etc., mais ils ont tous vécu. Et le relationnel est important. Or, combien dans le relationnel, l'ennemi veut s'immiscer pour détruire les relations? J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je n'ai pas le temps. Et donc, dans la vision, nos rapports mutuels à l'intérieur de la communauté sont importants. Et ce relationnel, passe par la compréhension de l'autorité, passe par la compréhension des qualifications, passe par la compréhension des ministères dons, etc., etc. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait la formation Jean-Paul Englert, je vous invite à le faire parce que c'est très très bien développé et ça vous donne les bases du relationnel. Le deuxième domaine de la vision, c'est le représentationnel. C'est quoi ? C'est ce qu'on nous représentons. Nous représentons tous quelque chose. Quand on vous apprend en langage, par exemple, les bébés qui commencent à apprendre, on leur dit un arbre. C'est quoi un arbre ? Ça veut rien dire, un arbre. Sauf si vous l'associez à quelque chose que vous voyez. Ah oui, c'est un tronc avec des feuilles, des machins, un arbre. Donc, quand vous dites arbre, dans votre cerveau, il se dessine une image et vous voyez l'arbre. Vous voyez, c'est représentationnel. C'est les représentations que nous nous faisons. Et nous faisons tous des représentations. La seule chose, c'est est-ce qu'elles sont conformes à une réalité ou est-ce que des représentations sont conformes à rien du tout. C'est tout le problème de la représentation. Et là, nous approchons les modèles. Quels sont les modèles que nous utilisons pour prendre des décisions, pour agir? Et c'est là le problème. Et moi, j'étais effaré, alors effaré. Moi qui viens de l'industrie, qui viens d'un milieu scientifique, j'ai participé à la construction de la fusée Ariane, de tous les satellites et tout ça. Je peux vous assurer que si on n'a pas de modèle, on ne peut rien faire. Tout est basé sur des modèles. Les modèles qui représentent la réalité. Des modèles mécaniques, des modèles physiques, des modèles électriques, des modèles, tout des modèles. Aujourd'hui, on peut construire une fusée en virtuel que par des modèles. Et marche complètement sur les écrans. Et il suffit de le shifter dans l'atelier, ça marche. Parce que les modèles, actuellement les modèles météorologiques, sont incroyables, la précision qu'ils ont. Bon, ils continuent à les affiner parce qu'il faut chercher les données, etc. Et dans l'église, j'ai dit, mince, les pasteurs, ils n'ont pas de modèle. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On marche à vue, un prophète qui passe, paf, c'est bon, c'est pas bon, c'est n'importe quoi, quoi. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a créé la science, les physiques, on peut faire des modèles. Et puis il y a des modèles spirituels, il y a des modèles de compréhension, il y a des modèles. Dieu ne fait pas tout n'importe quoi. Tous les matins, le soleil se lève. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un modèle. Hein, un modèle de mécanisme céleste. Hein. Et dans le spirituel, c'est pareil. Et donc je me suis attelé depuis 30 ans à chercher les modèles. Et le Seigneur a fait la grâce depuis 10 ans à nous donner des modèles. Et on a un certain nombre de modèles que nous enseignons aux disciples de l'Église, qui sont des modèles de compréhension de la réalité, des modèles de combat spirituel, des modèles de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas dans le combat spirituel. Il y a des gens qui se mettent en danger parce qu'ils font du combat spirituel absolument irraisonné. Et ils se mettent en danger. Et il y a une femme qui a témoigné à God Channel, qui a fait du combat spirituel au Texas, et bien du jour au lendemain, il a eu des problèmes avec son mari, avec ses enfants, qui sont devenus complètement rebelles, opposants. Enfin, il a eu des problèmes énormes. Il a eu des problèmes de santé, tout ça, jusqu'au jour où Dieu a dit, tu as vu des choses sur le plan spirituel, tu as vu des démons, tu as vu des puissances, ok. Mais je ne t'ai pas demandé à toi de prendre autorité. Ça, c'est à l'Église. Donc, il a arrêté, il s'est repenti, et il a demandé pardon, et tout s'est rétabli immédiatement. Et 10 ans après, quand à Dallas, il y a eu une conférence avec des milliers de gens. Ils sont rappelés, un pasteur s'est rappelé que cette femme avait reçu une vision, une révélation. Ils l'ont appelé dans le stade. Il a donné sa révélation. Et toute l'église a prié, les autorités ont prié. Et là, il s'est passé un réveil sur le... Voyez-vous, il faut savoir quand faire les choses, comment faire les choses, pas n'importe comment. C'est parce que Dieu vous donne une révélation qu'il faut y aller. Il faut la sagesse, il faut des modèles, il faut savoir comment fonctionnent les choses spirituelles. Et ça, c'est important. Et donc, ce plan représentationnel est absolument fondamental dans la vision. Et enfin, un dernier plan, c'est le plan opérationnel. Bien sûr, il faut agir à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut avancer. Dieu nous a fait pour l'action, même dans le domaine naturel. Si nous n'agissons pas dans le domaine naturel, de deux choses l'une. Ou nous avons des problèmes avec nos voisins, ou nous tombons dans la maladie. Ce qu'on appelle l'inhibition de l'action conduit au stress, au cancer, aux ulcères, etc., etc. Ça s'est démontré. Donc Dieu nous a fait pour l'action. Il faut agir à un moment donné. Quelqu'un qui n'agit pas, ce n'est pas un être humain. Mais il faut agir en tenant compte de cette vision, qui nous est donné. Donc le relationnel, ce sont nos rapports à l'autorité, au ministère don, aux qualifications, telles qu'enseignées dans la Bible, et non tirer nos expériences personnelles ou culturelles. Le représentationnel, donc le deuxième plan que j'ai développé, c'est une compréhension du réel qui nous entoure, que ce soit le monde spirituel, le fonctionnement des lois spirituelles, le combat spirituel, etc. Et le partage de modèles communs, l'instauration de l'autorité, la stratégie basée sur la parole de Dieu. Et enfin, l'opérationnel, c'est l'organisation et la conduite de nos actions sous forme de projets concertés, décidés, exécutés ensemble sous l'impulsion de l'esprit. Donc vous verrez sur le tableau fleurir ce genre de carte. Ça, c'est une carte opérationnelle de l'Église épouse. Et j'attends, ça c'est un scoop, aux conseillers de fonctionnement eh bien, de mettre leurs projets de cette année. Comme ça, vous pourrez voir vous-même les projets qui sont prévus de cette année dans le cadre de la librairie, dans le cadre de la louange, dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre des enfants, des ados, des outils d'évangélisation, du bâtiment, etc. Vous voyez ? Donc ça nous permet d'avoir une vision précise. Là, c'est déjà l'embryon de la maison de prière hein, qui va fonctionner de la même manière et de l'église ambassade. Là, c'est beaucoup moins fourni. Il y a très peu de projets. Entre autres, il y a le défi Miché, mais il y en a d'autres dans les hôpitaux. Je sais qu'Isabelle a à cœur les hôpitaux, mais tous ceux qui sont dans les hôpitaux aussi. Donc, ça peut être un projet d'ambassade vers le milieu hospitalier, etc. Et donc, ça, c'est l'opérationnel. La vision précise les valeurs aussi. Donc là, je passe très vite, j'ai pas le temps. Il y a 6 valeurs fondamentales que nous précisons dans la vision. La première, c'est l'amour, qui est à la base de nos motivations. Donc nous définissons comment l'amour fonctionne à l'intérieur de la vision. Nous définissons aussi dans cette vision le ministère, le service, qui est à la base de nos relations. La manière dont nous voulons servir, l'évangélisation, qui devient un style de vie, et la famille, parce que c'est un appel spécifique sur l'Église pour développer davantage disons les valeurs de la famille, qui est à la base de la société, qui est de soi spirituelle, parce qu'il y a une famille spirituelle et une famille humaine, l'Église comme institution divine, et enfin, l'environnement, enfin tout ce qui est l'ambassade comme réponse aux besoins de notre monde. Pour ceux qui ont plus l'habitude de se rappeler ce que je montrais sous forme graphique, c'est donc l'appel, le but, la mission et les 3 plans qui sont en fait une cohérence, une synthèse cohérente de l'ensemble de ce que nous avons appris. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Ça, c'est quelque chose qui est important. Nous sommes dans un contrat d'alliance avec Dieu. Assurément, Dieu est fidèle. Et si nous persévérons dans la vision que Dieu nous a donnée, à l'instar des compagnons de Daniel, et j'aurais voulu terminer là-dessus, mais je n'ai pas le temps, sur les compagnons de Daniel qui ont fait cette expérience. Ils avaient une vision de la société, une vision du royaume de Dieu par rapport au royaume dans lequel ils étaient. Et Dieu était fidèle, Dieu a honoré, et il s'est glorifié. Et ils ont pu se glorifier, parce que le jour où les 3 compagnons de Daniel ont été sauvés de la fournaise, eh bien, tous les princes du royaume étaient là. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu a été manifestée par tous les princes du royaume de cette époque-là. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que nous puissions glorifier Dieu et que les gens voient la gloire de Dieu. Parce qu'il le voit au milieu de son peuple, au milieu de l'Église, quand nous vivons cette vision.